Chers amis, bonjour, merci de nous écouter sur RCN, Radio Caraïbes Nancy, le 90.7 sur la bande FM, le www.rcn-radio.org, on a l'impression que c'est une litanie, sur Internet, et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter également par ce moyen moderne qu'est Internet. Marque-page aujourd'hui, vous allez voir, nous allons voyager dans le temps, voyager dans l'espace, et nous allons aller à la rencontre d'un livre extraordinaire. Certains ont dit que c'était le plus grand livre historique de la dernière décennie. Eh ben, je suis pas loin, croyez-moi, de partager cet avis. Parce que j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Éric Marchal. Bonjour Éric.
Bonjour.
Je peux dire Éric ?
Bien sûr, oui.
Éric Marchal, pour Le soleil sous la soie. Un livre dont on parle beaucoup, dont on parle énormément. Ce livre, il est sur dans tous les classements. Quand on regarde les grands hebdomadaires, on voit ce livre qui apparaît dans tous les classements. Parce que... alors. Il plaît, et Gérard Collard, qui est un libraire que l'on voit dans beaucoup d'émissions, notamment sur La 5, sur LCI, on le reconnaît avec sa petite houppette et son crâne rasé, mais qui a son franc parler. J'ai retenu quelques mots qu'il avait prononcés à propos de votre bouquin. Alors voilà ce qu'il disait. Je le cite, hein. The roman historique de l'année, fabuleux. Si vous l'avez manqué, vous êtes nul. Intelligent, c'est la référence, c'est un chef-d'œuvre. Meilleur depuis Les piliers de la terre, Ken Follett, quelle référence. Alors s'il a ajouté, comment va-t-il faire pour le prochain ? il était un peu malicieux. Alors, c'est vrai que ce roman, qui se passe à la fin du XVIIe siècle, mmh. en Lorraine, entre 1694 et 1702, mmh. il y a une première étape, 94-98, on est là, on va voir pourquoi, aux confins de la Hongrie et de l'Empire ottoman. Mmh. Et puis après, on revient en Lorraine, c'est le duc Léopold, les Français sont partis, malheureusement ils reviendront, le duc Léopold quittera Nancy pour Lunéville, et pendant toute cette période, ces 8 ans, on va côtoyer un type extraordinaire qui est le fruit de votre imagination, mais qui représente certainement ce qui s'est passé à l'époque. C'est peut-être aussi l'assemblage de plusieurs personnages, on va voir. Nicolas Deruet, qui est chirurgien. Et on va suivre ce garçon qui veut essayer de faire progresser cette science qui n'est pas reconnue. Les chirurgiens étaient considérés comme des valets, c'était les barbiers, c'était ceux qui faisaient les saignées, etc. Les grands, c'était les médecins. Se rappeler l'ami Molière, hein, qui a su les fustiger. Et Nicolas Deruet va donc parcourir l'Europe, on le verra à travers l'Europe, pour faire progresser sa science. Mais ce roman, c'est pas uniquement un roman historique, c'est un roman historique extraordinaire, c'est un roman d'amour, parce que il va rencontrer des femmes extraordinaires qui... une a vécu, je crois, quand même, une, ou les deux sont inventées.
Non, les deux sont inventées.
Les deux sont inventées, oui, c'est dit
mais
à la fin
contre,
du roman.
Mais par contre, une des deux a le nom d'une héroïne, d'une personne qui a eu sa petite heure de gloire aussi, Marianne Pageot.
Oui, voilà.
Qui, à peu près une centaine d'années avant, a failli se marier à un des ducs de Lorraine.
D'accord.
Et Louis XIV a fait un petit peu capoter, on va dire, cette union dont personne ne voulait, d'ailleurs, ni les Lorrains, ouais. ni le Royaume de France.
Alors, on est dans le plus petit état, un des plus petits états d'Europe, et c'est un instant crucial de l'histoire de la Lorraine, de l'histoire de la France et de l'histoire de l'Europe. Mmh. Donc, on est vraiment dans la grande histoire. Mais c'est aussi un roman d'aventure, un roman épique. C'est un polar. Parce qu'il y a un suspense que vous savez bien ménager, d'ailleurs. C'est presque du cinéma. Ces plans coupés comme ça, où on se demande ce qui va se passer. Il y a un personnage qui rencontre un autre, et puis on saute de chapitre dans un autre chapitre, dans une autre époque, dans un autre univers. Et puis, c'est aussi un roman sur l'histoire de la médecine. Enfin bon, que dire de plus ? Éric Marchal, tous ces compliments, quel effet ça vous fait ?
Ah bah moi, ça me touche. Hein, depuis que le livre est sorti, là, ça fait maintenant 4 mois et demi à peu près, il est sorti au mois de septembre, je reçois de plus en plus de témoignages de personnes, de lecteurs, mais pas seulement de Lorrains. Et c'est ça qui me fait aussi énormément plaisir. Les gens m'écrivent de partout, d'Avignon, de Bretagne, en me disant « mais on a découvert une partie de l'histoire de France et la Lorraine qu'on connaissait très très peu ». Et ça me fait autant plaisir que ceux qui me disent qu'ils ont découvert un peu l'histoire de la chirurgie, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens de profession médicale qui l'ont lu et qui ont été intéressés par tout le côté plus, on va dire, technique que je décris. Et j'ai voulu mélanger ces deux... En fait, je suis parti de cette idée de mélanger deux histoires. La première est une histoire vraiment du chirurgien barbier. Et ce chirurgien barbier, dans le terme d'ailleurs tout est résumé, hein, ils étaient autant barbiers que chirurgiens, Nicolas Dérouet refusait lui d'être barbier. C'est une époque où les chirurgiens commencent à avoir les moyens de se révolter, j'allais dire, contre les médecins et de transformer ce qui n'était considéré que comme une technique, d'en faire vraiment un art. Et c'est vraiment une période charnière pour la chirurgie. D'ailleurs, l'Académie royale de chirurgie en France naîtra une trentaine d'années après. Et j'ai voulu aussi le situer en Lorraine parce que c'était une période qu'on connaît très peu. Et moi, le premier, pourtant étant Lorrain, je connaissais très peu ce qui s'était passé à cette période-là, notamment tout le règne du duc Léopold. Et moment où, après l'occupation française, les troupes se retirent et Léopold arrive en Lorraine, il ne la connaît pas.
Oui.
Il est né à Innsbruck en Autriche. Oui. Il a un accent d'ailleurs au départ autrichien prononcé.
Oui.
Il arrive dans un duché qui lui est complètement inconnu. Tout est à reconstruire. Le duché est ruiné. Beaucoup de gens sont partis en exil. Beaucoup d'hommes sont partis aussi dans les guerres. On en reparlera peut-être plus tard. Et à ce moment-là, tout est à refaire. Et donc à la fois, il y a cet espoir pour notre chirurgien qui veut essayer d'imposer la chirurgie face aux médecins. Et puis l'espoir de tout un duché de retrouver la paix après plus de 30 ans de guerre.
Alors, ce Nicolas Dérouet commence bien mal sa carrière parce qu'il est impliqué dans une affaire où il est plus victime que responsable, mais il va devoir fuir. Quoi.
Voilà, comme ça arrivait souvent à l'époque, c'est aussi une chose que j'ai découverte, c'est que les gens n'hésitaient pas à faire des procès aux médecins ou aux chirurgiens, plutôt aux chirurgiens, parce que le médecin s'impliquait très peu. Le médecin donnait un diagnostic et après c'était aux chirurgiens d'opérer. Et comme souvent, malheureusement, les opérations se finissaient mal, soit directement pendant l'opération, soit indirectement, puisqu'on ne connaît, on n'avait aucune notion de l'hygiène que l'on a actuellement. Et les opérations se faisaient pour les plus riches à la maison, sur la table de la cuisine, pour les plus pauvres dans les hôpitaux qui étaient insalubres, du moins dans les conditions telles que nous on les connaît. Et donc, le patient décède et Nicolas est accusé et il est emprisonné.
Il est accusé aussi par les occupants, par les Français,
qui occupent
Nancy. Il fuit et il va rejoindre les troupes,
Lorraine.
Le corps expéditionnaire, si je puis dire, Lorraine, qui se trouve là-bas aux confins de la Hongrie et de l'Empire ottoman. Sous les ordres, ces troupes sont sous les ordres du duc Léopold, qui a 17 ans.
Qui est très très jeune, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a vraiment stupéfait, c'est qu'en fait il devait avoir 16 ans, il a commencé la guerre, il arrive à Nancy, il a 19 ans, dont 4 années de campagne. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir déjà la maturité qu'avait dû avoir ce jeune homme, après 4 années de campagne, arrivé à la tête d'un État à 19 ans, comme ça. Et après, on verra, l'histoire nous donnera raison d'ailleurs, enfin lui donnera raison, pardon. Il a fait 30 années d'un règne fort peu connu, mais qui a été, avec toutes les qualités et les défauts qu'il pouvait lui avoir, qui a été vraiment riche et foisonnante à tous les niveaux, que ce soit pour les arts, pour les sciences, pour la reconstruction elle-même du duché. Un personnage vraiment très très humain que j'ai découvert.
Et en plus, qui s'est opposé à ses grands voisins, et notamment à la France, à Louis XIV, parce que déjà à lui, ça j'ai découvert ça aussi, déjà à lui, on lui avait proposé d'échanger avec le duché de Toscane. Je pensais que ça arriverait avec François uniquement, mais et lui,
Il était à peine arrivé qu'un an après, Louis XIV, de façon de plus en plus pressante, lui proposait d'échanger avec le Milanais. Alors le Milanais, à l'époque, c'était sans commune mesure. Hein. C'est comme si on vous disait de partir d'un petit village pour aller dans une grande ville. Ça lui donnait aussi une cassette énorme en termes de budget. C'était quelque chose de très valorisant. Alors, bon, moi, je l'ai peut-être un peu romancé. C'est-à-dire que dans mon histoire, Léopold fait tout pour faire reculer cette échéance jusqu'à ce qu'effectivement, de façon naturelle, ça ne se fasse pas, pour des raisons historiques qui sont connues par ailleurs.
Les guerres de succession d'Espagne, voilà. etc.
Mais dans la réalité, je ne sais pas quelle a été sa véritable intention. Quand on vous lisait un peu les historiens de l'époque et les archives, il a quand même apparemment assez hésité à partir dans le Milanais. Ça s'est ébruité assez vite. Et dans Nancy, de toutes parts, il y avait des gens qui venaient le voir ou qui lui écrivaient pour lui dire « ne nous abandonnez pas ». Je ne sais pas si ça a joué. En tout cas, bon, le sort a fait que ça ne s'est pas fait.
Mais alors, Nicolas Desruet, donc va suivre la carrière de Léopold, quoi, quasiment. Il va donc, il fuit, il se retrouve là-bas. C'est en pleine guerre. Et il va essayer de faire progresser sa science, parce qu'il est amené à soigner des gens qui ont pris des rafales, qui ont pris des coups d'épée, des coups de lance, etc. Donc des jambes, des bras arrachés. Il va apprendre son métier sur ce champ de bataille.
Comme beaucoup de chirurgiens, depuis Ambroise Paré, la chirurgie a énormément progressé pendant les guerres, malheureusement. Mais heureusement pour la chirurgie. Ambroise Paré, lui, alors Nicolas Desruet va suivre les enseignements et les préceptes d'Ambroise Paré, qui pourtant avait vécu plus de 100 ans avant. Mais ils étaient encore. C'était ce qu'il avait fait, les œuvres et les traités d'Ambroise Paré, dont j'ai pu me procurer donc des copies, étaient d'une très grande modernité et expliquaient très exactement comment il fallait soigner tel type de blessure. Et ce que je reproduis d'ailleurs dans le livre, la façon dont les gens sont soignés dans le livre. J'ai suivi les préceptes d'Ambroise Paré tels qu'il les indiquait à l'époque.
Il y a une scène de réduction de fracture, une autre scène d'opération d'une flèche ou d'un bout d'épée planté. Enfin, il part à l'aventure, quoi, devant la blessure. Il n'a pas tous les éléments, il ne connaît pas tout, mais son intelligence, son observation fait qu'il va prendre les bonnes décisions dans la plupart des cas.
Oui, il fait partie de ces gens qui ont eu beaucoup d'expérience, pourtant restant encore très jeunes, tout simplement parce que contrairement aux médecins, les chirurgiens ne faisaient pas d'études dans les universités. À l'époque, pour nous, c'était Pont-à-Mousson. La faculté de médecine était située là-bas.
Il n'y avait pas de chirurgie.
Il n'y avait pas de chaire de chirurgie. D'ailleurs, dans la réalité, Léopold a essayé d'imposer une chaire de chirurgiste en 1707 à la faculté de Pont-à-Mousson. Il y a une levée de bouclier des médecins. C'était encore un peu tôt à l'époque. Et il a reculé devant cette levée de bouclier. Les chirurgiens, en fait, faisaient une sorte d'apprentissage, puis de compagnonnage, et finissait par faire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, donc une sorte, ça correspondrait à la thèse d'aujourd'hui finalement. Et après ce chef-d'œuvre, il pouvait être désigné comme maître chirurgien. Donc il n'avait que de la pratique. Il n'étudiait pas dans les livres pour une raison très simple au départ, c'est que la plupart des livres étaient en latin et qu'eux-mêmes ne connaissaient pas le latin, contrairement à les médecins étudiant en latin. C'est une époque aussi intéressante justement parce que les premiers traités commencent à arriver en français, traduits en français. Et donc là, il pouvait, avec des illustrations que je trouve superbes, parce que les gens qui faisaient les illustrations des traités d'anatomie, c'était des vrais artistes, des peintres, des dessinateurs de l'époque très, très doués. Donc on a des livres qui sont à la fois très intéressants pour eux, mais qui sont, quand vous les regardez, aussi d'une espèce de beauté irréelle, parce que vous voyez des écorchés, mais c'en est presque beau d'ailleurs,
tellement la
façon dont c'est représenté.
Une œuvre d'art, il suffit de voir les œuvres de Ligier Richier, L'écorché par exemple, c'est quelque chose de magnifique, c'est une œuvre absolument extraordinaire. Alors ce Nicolas revient en Lorraine après 4 ans
de campagne.
Ouais. Et là il va renouer avec les deux femmes qu'il a connues avant de partir, qui sont un petit peu responsable. Il a l'impression qu'elles sont responsables. On verra qu'elles le sont vraiment responsables de sa fuite. Alors, c'est une femme est une matrone, une sage-femme, qui elle aussi cherche et essaye de trouver des techniques modernes pour être beaucoup plus proche de ses parties, enfin des parties
urgentes. Pour l'obstétrique, c'est pareil que pour la chirurgie. C'est vraiment une période extrêmement intéressante parce qu'on commence à voir la professionnalisation. Avant, vous parliez de matrone. Avant, on avait effectivement que des matrones. Alors, la matrone était une femme du quartier qui était désignée par les autres femmes, donc par une sorte de vote. Et ça, c'était entériné par le curé de la paroisse pour aider les femmes pendant leurs accouchements, mais de façon très passive. Elles n'avaient pas de technique d'accouchement. Alors que les sages-femmes, les premières sages-femmes, elles, avaient suivi quelques enseignements. Il y avait une sage-femme très célèbre à Paris, je crois que c'était à l'Hôtel Dieu, mais il est possible que je dise une bêtise, qui s'appelait Louise Bourgeois. Là, c'était une cinquantaine d'années avant. Elle donnait des enseignements de sage-femme. C'est vraiment aussi pour cet art-là, pour l'obstétrique, le départ d'une nouvelle ère. Et donc, Marianne Pajot, dans Le Soleil sous la Soie, elle n'est pas du tout une matrone. C'est vraiment une femme qui connaît des techniques médicales, qui connaît des techniques aussi donc d'obstétrique pour les accouchements. Et d'ailleurs, les deux accouchements que je décris, je les décris aussi d'après ce que j'ai retrouvé dans des traités anciens. Ça se passait de cette façon-là et c'est parfois assez spectaculaire.
Il y a une relation amoureuse et presque technique de praticien entre lui et cette femme.
Marianne et Nicolas ont en commun la passion. Oui. La passion de la chirurgie, de l'obstétrique, de la médecine.
Oui. Et du patient, d'aider le patient.
Le côté humain.
Et puis il y a une autre femme, c'est son cœur balance, enfin c'est ce qu'on en puisse dire. Mmh. C'est autre femme qui est une aristocrate. Et on a l'impression que cette femme est vraiment une femme du 18e, quoi, qui est déjà imprégnée de ce que le 18e va apporter.
Exactement.
Alors qu'on est juste à la fin du 17e. On parle déjà de Spinoza. Voilà. Et puis, donc il y a déjà cette femme.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie de ces femmes qui commencent à lire des ouvrages comme ceux de Spinoza. Et on n'est pas encore à l'époque des salons,
non.
Des salons littéraires ou philosophiques, mais c'est les premiers prémices. Et c'est ce qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer un peu ce qui commençait à sommeiller et à sortir, à germer dans les esprits de certaines personnes de l'époque. C'est ce goût pour la liberté, ce goût pour le bonheur, tout simplement, notamment au niveau des femmes, puisqu'elles avaient une condition qu'on connaît.
Et c'était peut-être plus facile dans un état comme celui de Lorraine, qui était peut-être plus évolué d'un point de vue social que la France, même qui était sûrement plus évolué d'un point de vue social que la France.
Oui, oui. Léopold a essayé de faire beaucoup de choses. Le fameux col de Léopold, est pareil, encore assez méconnu, mais il est arrivé avant bien d'autres codes qu'on connaît et plus célèbres, donc code Napoléon.
Bien sûr. Et là, quand il revient, il s'installe, il crée, comment on pourrait appeler ça, les urgences.
En quelque sorte, voilà. Ouais. C'est-à-dire
avec l'ambulance qui va être capable. Alors il y a une séquence extraordinaire, quoi, parce que on remplace le cheval par un chameau. Mais
chameaux qui ont existé.
Oui,
c'est pour ça
existé,
que je me serais jamais permis inventions de faire quelque chose de complètement invraisemblable. J'essaye toujours soit d'être dans le vrai, soit d'être dans le vraisemblable. Et ces fameux chameaux dont on parle ont existé.
Oui.
Ils sont revenus avec Léopold, triomphalement, on va dire, de leur campagne en Hongrie contre les Ottomans. Oui. Donc, c'était des prises de guerre contre les Ottomans. Alors, les chiffres avaient varié à l'époque. Certains disaient il y a 6, 9 chameaux, d'autres disaient 60, d'autres disaient 600. Puis finalement, sur un tableau de l'époque, j'ai retrouvé, je les ai comptés, effectivement, ils étaient plus au nombre d'une dizaine que de 600. Ces chameaux ont logé longtemps dans une dépendance du bastion de Haussonville. Donc, en fait, ça correspondrait aujourd'hui à côté de la place Stanislas, près de la petite place, je crois qu'elle s'appelle Erré, il me semble. Et ça s'appelait à l'époque la place des chameaux.
Ça s'est appelé la place des chameaux.
Oui, en quelques temps. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a traîné ainsi, la place des chameaux.
Et là, il crée à Saint-Charles, enfin, l'hôpital qui se trouve, enfin, dans les bâtiments qui sont près de la porte. C'est presque la porte Saint-Nicolas, que je ne dise pas de bêtises.
En fait, l'hôpital Saint-Charles, l'immeuble n'existe plus aujourd'hui. Les bâtiments n'existent plus. Le lieu, c'est au début de la rue Saint-Jean.
Voilà, c'est ça.
Donc, ça fait tout un petit bout de quartier. Début de la rue Saint-Jean sur la droite, quand vous descendez la rue Saint-Jean, je crois qu'il y a la rue Léopold l'Allemand. Et puis une autre rue dont j'ai oublié le nom. À l'époque, c'était rue des Artisans.
Il aurait fallu un plan dans le livre. Fameux plan de.
Le fameux plan donc de 1600 et des poussières, oui. J'ai hésité longtemps à le mettre et puis je me suis dit qu'ayant mis un certain nombre d'indications dans le livre, on pouvait réussir à s'en sortir.
Je peux vous avouer
avec
que je l'ai lu, mais avec le plan.
Mais donc cet hôpital Saint-Charles, aujourd'hui, les bâtiments n'existent plus. Aujourd'hui, il y a une maison Saint-Charles, mais qui n'a rien à voir avec l'hôpital de départ.
Alors, il va créer les urgences, il va créer une sorte d'ambulance. Alors, bon, des ruées n'ont pas existé, mais tout ça sont des choses qui se sont passées réellement
sur les champs de bataille, ce qui commençait à se créer, c'était, ils appelaient ça des ambulances volantes. En fait, c'est des carrioles dans lesquelles ils transportaient les blessés depuis le champ de bataille vers un endroit un peu plus éloigné pour pouvoir les opérer. Et ces fameuses ambulances volantes. Donc Nicolas Deruet les a exportées, on va dire, à Nancy, les a réutilisées à Nancy. Mmh. Bon, en fait, c'était une carriole avec au départ un âne et après ce fameux chameau, pour une raison que je ne citerai pas. Et la réalité devait être très très proche de ce que je décris. Effectivement, les personnes blessées qui ne pouvaient pas se déplacer, on allait les chercher en carriole.
Et puis on va avancer comme ça. Alors, il y a toute l'intrigue amoureuse, il y a l'intrigue, tout un tas de choses qui se passent. Et puis les Français vont revenir. Et là, Léopold ne va pas du tout apprécier. Et il va quitter donc définitivement Nancy pour aller à Lunéville. Et il va construire le château Léopold, et non pas le château Stanislas, parce qu'à chaque fois ça m'énerve quand on parle du château Stanislas à Lunéville.
Non.
C'est le château Léopold. Mmh. Et d'ailleurs, à la fin du roman, le roman se termine en 1702, et il y a un petit chapitre en 1729 qui est à la mort.
Il y a un épilogue, effectivement. J'ai voulu parler de la mort de Léopold.
Qui est une mort un peu bizarre, d'ailleurs.
Et la façon dont ça s'est passé. Oui. Effectivement, moi, Léopold, en fait, était en train de visiter un chantier pour la construction d'un château pour Marc de Beauvau-Craon et sa femme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la femme de Marc de Beauvau-Craon était la maîtresse de Léopold depuis une vingtaine d'années.
Oui.
Je l'évoque un tout petit peu, cette femme. À un moment donné, elle passe dans une scène que je décris, dans une scène de fête et de liesse. Mmh. Elle passe, elle est une des, entre guillemets, Valentines, parce qu'il y avait encore cette tradition à l'époque. Mmh. Elle est une des Valentines de l'année. Et en fait, alors Léopold était vraiment, d'après ce que j'en ai lu, à genoux devant elle et ne faisait que ce qu'elle lui demandait. Mmh. Et il a dépensé énormément d'argent pour Madame de Beauvau-Craon et lui a fait donc construire ce château. Et c'est en allant au mois de mars, peut-être le 24 mars 1729, visiter ce château qu'il est tombé dans un fossé. Il s'est relevé, il n'a pas voulu aller se changer. Il avait un office à suivre chez les Capucins, je crois, ou les Bénédictins. Et il a été ainsi faire son office. Et le soir, il était malade. Et trois jours après, il est décédé d'une pneumonie.
Et on revoit subrepticement, j'allais dire, ce qui est devenu Nicolas Deruet, et son épouse, puisqu'il a fini par en épouser une des deux.
On ne dira pas laquelle.
Et non, je ne dis pas laquelle. Et voilà, donc on vient en quelques minutes de parcourir l'histoire, de parcourir le roman historique. Et aussi, on a abordé un petit peu le roman de cette découverte de la chirurgie. Mmh. Mais il y a plein d'autres choses. On est dans le Nancy de tous les jours, dans une ville telle que était Nancy, qui était à la fois une capitale et une ville de province. On passe dans les cabarets, on voit comment vivaient les gens, les officines, les petits métiers, etc. On a l'impression d'entendre le bruissement de la rue, les roues sur les pavés. Enfin, c'est extraordinaire parce que dans le style que vous employez, c'est du cinéma. Hein. On a l'image qui se déroule, quoi. C'est pas la peine de d'ouvrir l'écran de télé, comme je dis souvent. Il suffit de lire ce roman. Enfin, c'est extraordinaire.
C'est l'avantage d'un roman, quel qu'il soit, c'est de se construire soi-même son propre monde et ses propres images. Alors, plus les descriptions vont être précises, plus on va l'écrivain, le romancier va amener le lecteur vers l'image qu'il veut lui montrer ou lui décrire. Mais c'est vrai que c'est moi, en tant que lecteur, c'est ce que j'adore aussi, c'est me laisser emporter par justement des mondes ou des périodes que je ne connais pas. Ouais. Et j'étais le premier à les découvrir, puisque le Nancy de ces années-là, j'en avais pas trop d'idées. C'est vrai qu'on s'arrête tellement sur ce qu'a fait Stanislas qu'on oublie, on met énormément dans l'ombre ce qui s'est passé avant. Et surtout, Léopold, son règne a duré 30 ans, ce qui est quand même énorme. Il a fait énormément de choses pour Nancy, ce qu'on ne sait pas, et pour Lunéville aussi, pas Lunéville. Et j'ai par exemple découvert qu'il y avait des salles de jeux de paume à Nancy, qu'il y en avait deux, que c'était un jeu qui était encore, même s'il était en perte de vitesse, il était encore assez joué, pratiqué. Léopold en faisait un peu. Les bourgeois, la plupart des bourgeois de Nancy jouaient aussi aux jeux de paume.
On se donnait rendez-vous aux jeux de paume.
On se donnait rendez-vous aux jeux de paume.
On se lançait des défis aux jeux de paume.
Il y en avait un dans le Palais Ducal. Alors, le Palais Ducal étant maintenant donc, le musée Lorrain, dans un des bâtiments, il y avait une salle de jeux de paume. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des joueurs professionnels de jeux de paume à l'époque. Il y en avait à peu près 160 en Europe qui faisaient un peu le tour des villes. Et comment est-ce qu'ils gagnaient leur vie? Ils gagnaient leur vie sur les paris qui étaient faits sur les matchs. D'où parfois certaines arnaques entre guillemets.
Oui, oui. Alors il y en a
pour pouvoir gagner un peu plus.
Un des amis, parce qu'il a, il a, il y a aussi, c'est pas uniquement la vie de Nicolas Deruet, c'est la vie aussi de ses quatre amis, son maître, cet ami qui va le rencontrer, qui va rencontrer là-bas sur le champ de bataille,
en Hongrie,
et qu'il retrouvera après à Remiremont. Et puis il y a aussi le garçon qu'il va ramener avec lui, qui est un tzigane, qui lui aussi va se lancer dans la chirurgie, mais il va aussi se lancer dans le jeu de paume et dans les arnaques.
Alors lui, pas trop dans les arnaques, non, mais c'est vrai qu'il va beaucoup jouer, il va être victime, mais il va beaucoup jouer au jeu de paume, il va le découvrir, mais c'est... J'ai découvert le statut des Roms, enfin à l'époque on les appelait même pas encore les Roms, c'était des bohémiens ou des tziganes, dans l'Europe de l'Est. J'ai découvert en faisant mes recherches de bibliographie pour la partie qui m'intéressait, et ce que je ne savais pas et qui m'a vraiment énormément surpris, c'est qu'à l'époque, les Roms pouvaient être des esclaves certaines personnes haut placées en Hongrie. Et bon, c'est ainsi qu'a démarré l'existence d'Aslan dans le roman.
Qui est un personnage extraordinaire, c'est un personnage passeur, il permet de faire le passage entre les femmes, entre les amis, c'est un personnage
comme ça se déroule
courroie,
sur 8 ans, ça me permet aussi de faire évoluer Aslan, puisqu'Aslan au début de l'histoire a 12 ans.
Donc
après, il a une vingtaine d'années et on le voit évoluer, on voit vers quoi vers quel adulte il va être. C'est ce qui m'a plu aussi de pouvoir, comme j'avais la possibilité de le faire sur une durée un peu longue, de faire évoluer les personnages.
On fait une petite pause musicale.
Ah, volontiers.
Je vous propose d'écouter, peut-être connaissez-vous ce groupe, ça s'appelle Gratte-moi la hanche. Allez, on écoute Gratte-moi la hanche.
J'adore Gratte-moi la hanche. Merci.
Gomard de ses sons d'entendre des plaines aiguës.
Gratte-moi la hanche, vous connaissez?
Oui, hein. Oui, je connais très bien Gratte-moi la hanche, puisque Emmanuel est de
Emmanuel Marchal.
Comme moi, voilà, et Emmanuel est ma fille.
La fille d'Éric Marchal, qui ce groupe qui vient nous voir de temps à autre et que nous aimons beaucoup. Emmanuel Marchal m'a écrit magnifiquement. Les poèmes de Manu sont extraordinaires.
Elle écrit des très beaux textes de chansons et de la poésie
aussi.
Elle
est venue plusieurs fois, elle reviendra. Dès qu'on organisera un prochain match, puisqu'on organise des matchs de poésie ici, autour de ce micro, eh bien on fera appel aussi à Emmanuel Marchal. On la salue, on l'embrasse. Revenons à Éric Marchal, qui vient nous voir aujourd'hui pour Le Soleil sous la soie, ce extraordinaire roman. La jaquette dit une formidable fresque à la façon d'un Ken Follett. Et c'est le Figaro littéraire qui disait ça, mais tous sont... Alors que ce soit l'Express, le Nouvel Obs, etc., tout le monde est absolument sur la même longueur d'onde par rapport aux critiques. Bon, chez Anne Carrière, les éditions Anne Carrière, votre premier roman, parlons-en un petit peu, 30 secondes, qui était aussi aux éditions Anne Carrière, Influenza, avait été remarqué déjà, vous avez eu 2-3 prix hein, quand même. Hein,
j'avais eu un prix pour celui-ci, Influenza, j'avais eu le prix du premier roman, Carrefour Savoir, donc qui est un prix donné par les magasins Carrefour, et qui est un prix que j'aime beaucoup, non pas parce que je l'ai eu, mais parce que le jury est composé à moitié d'écrivains reconnus et à moitié de lecteurs. Donc il y a, je crois, 10 personnes, 5 plus 5. Et donc les débats, apparemment, sont toujours très, très forts, très denses et très serrés. Et donc c'est un vrai prix, de coup de cœur qu'ils donnent tous les ans. Et moi, c'était la 8e édition, donc j'ai pu croiser Mireille Calmel, Romain Sardou, qui étaient dans ce jury.
Alors, pour l'instant, Le Soleil sous la soie vient d'avoir l'Unélivre, le prix de l'Unélivre.
Oui, j'étais très content, c'était un très très beau souvenir.
Et puis il y en aura encore d'autres, moi je suis certain que ça va pleuvoir, les prix. De toute façon, vous avez le prix RCN ce soir. Alors, vous, comme d'habitude, chers amis, notre amie Christine Léninger, que vous connaissez, se fait toujours petite souris et elle vient derrière son micro et vient apporter non seulement son petit grain de sel, mais aussi parfois lire des extraits parce que elle lit très bien, si vous permettez, Eric. Christine, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu jusque maintenant?
Ça m'emmène très loin et très près en même temps parce que c'est Nancy, donc ça fait résonner une corde d'harmonie. On a envie de découvrir plus loin ce personnage. J'ai pas encore eu la chance de lire votre livre, mais je suis déjà...
Il est là, je le prête.
Je suis déjà partante pour le lire, ça c'est clair.
Est-ce qu'on peut lire, avant d'aller plus loin, lire un extrait, par exemple? Alors, j'ai plein de repères, je vais essayer d'en trouver un. Un extrait, voilà. On est pendant cette guerre où les Lorrains se sont engagés.
Oui. Contrairement aux Français, d'ailleurs, c'est ça qui était qui m'a intéressé aussi d'un peu d'étudier, puisque les Français se sont désintéressés de cette guerre. Il y avait toute une coalition européenne avec Autriche, Hongrie, Allemands, bien sûr, et plusieurs régiments de troupes lorraines, donc des gens qui avaient quitté le duché pour aller combattre les Ottomans en Europe de l'Est.
Les Ottomans qui étaient montés
très loin. Ils étaient montés jusqu'à Vienne.
Ils étaient aux portes de Vienne. Oui. On écoute Christine qui nous lit cet extrait.
Les tambours. Il entendait des tambours. Son esprit flottait entre le rêve qui continuait à l'aimanter et la réalité dans laquelle son corps se refusait à émerger. Lourd. Il se sentait si lourd, impossible d'ouvrir les paupières. Les trompettes étaient entrées dans la danse alors que Nicolas continuait de dériver entre deux mondes sans pouvoir en rejoindre aucun. Ses pensées, élastiques, n'étaient reliées entre elles par aucune cohérence. Où était Marianne? Il crut entendre sa voix, mais dans lequel des deux mondes était-elle? Et d'où provenait cette musique? Son crâne lui faisait mal, si mal qu'il eut envie de tout faire pour plonger à nouveau dans l'inconscience. Il n'y parvint pas. Il avait l'impression d'être un esprit éveillé dans un corps endormi. Et soudain, il comprit. Quelque chose se passait à l'extérieur qui voulait sa mort. Toutes ses pensées s'enchaînèrent. Il devait ouvrir les paupières. Son corps était en train de devenir son cercueil. Il cria mais n'entendit aucun son, à part les tambours insupportables qui rythmaient ses céphalées. Il se débattit, se battit contre lui-même et la pesanteur écrasante. Il hurla, rassembla toutes ses forces et réussit à ouvrir les yeux sur la réalité. Sa tête était une meurtrissure, son corps était engourdi, ses muscles ne le portaient plus. Il s'assit avec difficulté sur sa couche. Il faisait sombre dans la pièce. Les deux infirmiers n'avaient pas bougé de position, allongés sur le côté. Tout semblait normal et apaisé, sauf le visage de Philippe. Il était devenu gris.
Voilà, c'est un extrait. Donc, les troupes ottomanes attaquent. Alors, à chaque fois qu'elles attaquent, il y a des trompettes.
Il y a de la musique. Les guerres se faisaient beaucoup au son de la musique à l'époque.
Et oui, et lui, Nicolas, à ce moment-là...
Un moment particulier,
particulier, oui, ouais. Parce qu'il doit lutter contre une sorte d'empoisonnement, enfin...
Exactement, voilà, ouais. En fait, ce qui est arrivé... Alors, j'avais lu les mémoires d'un chirurgien en campagne, et ce qui arrivait parfois dans certaines campagnes, c'est que les gens qui se réunissaient autour de poêles, autour du feu, faisaient des intoxications
monoxyde de carbone.
Et donc, on les retrouvait parfois morts dans leur chambrée. Et donc, j'ai voulu aussi l'utiliser, cet accident-là, apparemment, qui était relativement fréquent. J'ai voulu l'utiliser dans l'histoire.
Et il va utiliser son savoir médical sur lui-même pour se sauver. Et c'est grâce à son savoir et à l'idée qu'il se fait de l'empoisonnement dont il est l'objet qu'il va pouvoir se sauver.
Tout à fait, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore quelle était la raison de ces empoisonnements du sang. Mais donc lui s'en rend compte assez rapidement et bon, je ne vous dis pas la suite effectivement,
non.
Mais il va réussir à sauver certains de ses camarades.
Alors là, il y a la description, mais ce qui est remarquable aussi, c'est le style que vous employez. Il y a des moments où le style va très vite, c'est la bagarre, ça. Quand on est dans les instants chauds, le style s'accélère et là on a l'impression que on est nous aussi pas pris par le gaz, quoi. C'est lourd, on sent que cette lourdeur, on sent que tout se fige, la phrase s'étire un petit peu comme ça.
Mais j'essaye de rendre justement un peu ce que son esprit peut rencontrer comme obstruction pour ne pas se réveiller. Cette espèce de chape de plomb qui doit être la sienne au moment où il est en train de s'intoxiquer. Et où il comprend et où il essaye de sortir, comme je l'écris, de son corps qui va devenir son cercueil s'il n'arrive pas à se réveiller.
Ah, c'est un gros roman, c'est 700 pages pratiquement.
Un peu moins, oui, 650
pages. Alors, chers amis, n'hésitez pas, 650 pages, ça se lit d'une traite. C'est un peu lourd, vous endormez pas, il n'y a rien à faire, vous le lisez, vous voyez la pendule qui tourne, mais ça vous est égal, vous tournez les pages. C'est extraordinaire, c'est un roman qu'on ne lâche pas, quoi. C'est vraiment le roman épique. Il n'y en a plus beaucoup des romans épiques comme ceux-là en France. Gérard Collard disait « C'est le seul ».
Écoutez, là, je ne sais pas.
Pourquoi avoir repris cette bannière
Je le ressens pas comme ça, en fait.
Ouais.
Non, c'est-à-dire que je... Le fait d'avoir écrit des romans dits historiques, c'est... presque un hasard, c'est-à-dire qu'à chaque fois pour influenza, on sait qu'on n'a pas trop parlé du sujet, mais ça se passait à une époque plus récente, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des lectures que j'ai principalement dans des magazines, des articles sur un sujet qui fait tilt, et je me dis mais j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'aller plus loin. Alors après, je creuse un peu le sujet. Et là, ça a été l'histoire des chirurgiens barbiers. Et puis j'essaye de le mettre dans un cadre et dans une époque et à la fois géographiquement dans un lieu qui est cohérent avec ce que j'ai envie de développer. Et donc finalement, j'allais dire, c'est un peu presque par hasard que je me retrouve dans un roman dit historique. Mais je suis pas spécialement... Je suis un lecteur de tout type de romans. Je suis pas particulièrement un lecteur de romans dits historiques. Et d'ailleurs, il y a une chose que je vais vous avouer, c'est que on m'a beaucoup parlé de Ken Follett, mais je n'ai jamais lu jusqu'à présent encore un seul livre de Ken Follett. Depuis Influenza, on me parle de Ken Follett, donc maintenant je sais vraiment qui il est. On me parle de ses romans, Les bâtisseurs de cathédrales. Il y en a eu un autre récemment qui se passait pendant la Première Guerre mondiale, je crois. Mais je ne les ai pas encore lus.
Parce qu'il y a cette sensation de l'épique, et ça avance, quoi.
Ça, par contre, j'aime tout ce qui est épique.
C'est oui. extraordinaire, parce que, et puis aussi le style que vous employez, ces plans coupés, on arrive, une conversation s'engage, et puis, on change de chapitre et on est avec d'autres personnages.
Oui.
Et on reviendra plus tard.
Parce que la vie n'est pas monolithique. Hein, ouais. À l'instant T, ouais. il peut se passer un certain nombre de choses intéressantes. Et ce que j'aime aussi, c'est par exemple parfois d'écrire certaines scènes pas vues depuis les personnages voilà. principaux, depuis un témoin qui peut être très très anecdotique
en contre-champ,
dans l'histoire.
Un petit peu, voilà, ouais, si comme, vous voulez. Comme une caméra de contre-champ.
Pourquoi pas ouais. Et c'est cette histoire justement de référentiel. Quoi. Ouais. On n'a pas forcément la même opinion sur ce que l'on voit en fonction du référentiel que l'on utilise, que ce soit un témoin qui voit deux personnes se disputer, mais quelle est la cause, la raison de cette dispute. Lui, il peut inventer sa propre histoire par rapport à ce qu'il voit, alors que la réalité sera tout autre, et ça me fascine beaucoup.
Mais est-ce que le scientifique que vous êtes, parce que on n'a pas dit qui vous étiez, vous avez fait des études de pharmacie.
Oui.
Ensuite, vous avez fait
une thèse de sciences à la faculté des sciences à Nancy, et je travaillais en fait à la fac de médecine.
Et puis vous avez été directeur d'une publication, je crois, non ?
Non. Après, je suis parti à la fin de ma deuxième thèse, je suis parti à Vittel.
Oui. Et vous avez présenté, voilà, je recherche mes petites notes. Vous avez présenté un magazine d'actualité scientifique sur FR3. Il y a longtemps.
France 3 Lorraine. Oui, il y a eu un numéro.
Ah bon.
Je ne sais même pas comment il a été diffusé, mais ça a été une très belle expérience, oui. Et je ne connaissais personne à France 3 Grand Est, il y avait une unité de production à l'époque, donc à Nancy, je leur avais envoyé par écrit une proposition d'émission sur l'actualité scientifique, mais c'était en 94-95, donc à l'époque, imaginez-vous, il y avait très peu d'émissions scientifiques, sur l'actualité, il n'y en avait pas, il y avait juste C'est pas sorcier, je crois, qui existait déjà, effectivement. Et ils m'ont répondu très rapidement en me disant « Banco, on est intéressé ». Donc on a travaillé avec France 3, on a travaillé avec l'INIST, qui est la Bibliothèque nationale du CRN, mais qu'on a la chance d'avoir près de Nancy, hein, à Vendeuvre, pour essayer de trouver le plus tôt possible la source d'informations scientifiques. Plutôt que d'attendre d'avoir des dépêches d'agences généralistes, l'idée c'était d'aller voir à l'INIST, parce qu'à l'INIST, les gens lisent toutes les publications puisqu'ils les indexent. Donc tout ce qui sort d'un point de vue scientifique ou technique de toutes les magazines qui sont publiés sont indexés par des gens de l'INIST. Et donc, quelque chose qui va paraître dans X semaines ou X mois dans la presse généraliste, on peut l'avoir déjà dans cette source-là, un peu en amont. Et l'idée, c'était ça. Et on est parti, on a fait un numéro, et après, pour des raisons de budget...
Et ça n'a pas continué,
ça n'a
c'est
pas
dommage.
Continué. En plus, c'était une très belle expérience.
Alors, l'écriture, le roman, est-ce que c'est le scientifique qui se retrouve dans cette écriture, ou est-ce que c'est pour se désengager du scientifique? Est-ce que c'est le Éric Marchal scientifique qui se prolonge dans l'écriture romanesque, ou est-ce qu'il dit « bon bah ça y est, c'est terminé, je coupe et maintenant je deviens un écrivain ».
Oh non, il y a des passerelles quand même. Hein. Il y a pas du tout de silo entre l'un et l'autre. Par contre, moi, ça fait très longtemps que j'écris, même avant d'avoir fini mes études. C'est vrai qu'au départ, c'était des choses beaucoup plus courtes. Ça ne finissait jamais. C'était assez velléitaire. C'est-à-dire, je commençais, j'avais une idée, une intrigue ou quoi que ce soit. Je commençais à écrire, je partais bien en tête. Et puis, au bout d'un petit moment, je m'essoufflais, puis j'arrêtais, puis je passais à autre chose. Donc, il n'y avait pas encore cette continuité dans l'écriture qui est venue plus tard. Les études scientifiques m'ont beaucoup aidé dans le sens où ça me permet de construire de façon rigoureuse à la fois une intrigue et toute une documentation. Ça, c'est important pour moi, ça m'aide énormément parce que la documentation, c'est à la fois merveilleux, mais ça peut être un cauchemar. C'est-à-dire que les documents aujourd'hui, grâce notamment à Internet, quand je dis Internet, je parle du bon côté d'Internet, les sources documentaires que sont les bibliothèques, comme la BNF, hein, avec son site Gallica. Sur Gallica, vous pouvez trouver, il y a 1 500 000 références qui sont téléchargeables, de livres anciens. Et ça, c'est formidable. Vous trouvez des perles c'est une mine de renseignements sur la vie de l'époque, sur les coutumes, sur l'histoire. Et donc, j'utilise énormément Gallica dans mes sources documentaires. Mais il faut faire un tri. Et c'est vrai que le fait de travailler, d'avoir fait des études scientifiques, notamment d'avoir fait une thèse et d'avoir pu construire une thèse grâce à de la documentation. J'ai travaillé aussi un petit peu à l'INIST. C'est comme ça que j'ai connu, où j'indexais les articles scientifiques. Et tout ça, ça m'aide beaucoup dans ma façon de chercher l'information et de ne pas me perdre, de ne pas me noyer dans cette foule d'informations et de faire aussi une hiérarchisation entre les différents niveaux d'intérêt d'une information. Donc ça, ça m'aide dans la partie beaucoup, dans la partie documentaire. Et puis après, je laisse tout ça de côté. Je lis beaucoup, je m'imprègne énormément pendant 3, 4, 5 mois. Et puis après, j'oublie tout. Et puis je me laisse aller à l'histoire.
D'accord. D'accord. Donc, il y a la partie scientifique, enfin la partie historique ou scientifique qui est construite. Et puis après, on amène les personnages, les intrigues.
On amène et l'histoire elle-même évolue en fonction de ce que je trouve. Parce que je fais beaucoup de recherches au début sur vraiment la base, le fondement de ce dont je vais parler pour être sûr de ne pas dire d'énormes bêtises. Et après, tout ce qui fait la chair d'une histoire, c'est-à-dire les petits détails, ça, je les trouve en général au jour le jour. Donc, tous les soirs, je commence un petit peu à écrire et puis je me pose une question sur est-ce que si, est-ce que ça. Et j'essaye de trouver la réponse sur Internet. Et parfois, donc, je trouve. Mais je trouve aussi d'autres choses qui m'amènent à faire évoluer mon point de vue sur ce que je voulais écrire. Et des personnages comme Aslan, je ne l'avais pas prévu au départ. Mais quand j'ai commencé à me documenter sur la Hongrie, sur ce qui s'y était passé, je me suis dit, mais il faut absolument que j'en parle. Moi, ça m'a suffoqué de voir qu'à cette époque, donc au XVIIe, fin du XVIIe même, il y avait encore des esclaves en Europe de l'Est. Et notamment, j'ai retrouvé une carte où dans ce royaume de Hongrie, il y a toute une bande, une région de la Hongrie qui s'appelle l'Esclavonie.
Ah, d'accord.
Donc c'est impressionnant.
Donc d'où le besoin, le ressenti de le faire.
L'envie d'en parler, l'envie de partager. Et du coup, le personnage d'Aslan est né comme ça. Et petit à petit, il a grandi dans mon esprit aussi. Et il est devenu indispensable à l'histoire.
Et puis, il y a aussi des anecdotes. Enfin, il y a quelques passages, quelques séquences qui se déroulent aux portes du Crône. Enfin, tout le monde à Nancy sait ce qu'est le Crône. La rue du Crône, c'était le port à l'époque. Mais on y voit les bateaux. Enfin, on sent cette agitation. C'était un petit port qui était quand même relativement fréquenté et qui était assez agité. Et on y voit le pont 1500 de Malzéville qui est déjà construit, bien sûr, parce qu'il y a deux siècles. Et il y a cette idée de construire un bateau, des personnages. Ami de le maître le maître de Nicolas veut construire un bateau, descendre la Meurthe, puis la Moselle, puis le Rhin, puis et gagner la mer et voyager.
Il s'est mis cette idée en tête. Ça a été finalement le but de sa vie, ce qui le maintenait le plus éveillé, beaucoup plus que la chirurgie. C'était suite à une conversation qu'il avait eue avec un marchand qui lui avait vendu une carte. C'était de se dire, mais en fait, si je pars avec mon bateau depuis Nancy, je peux arriver jusqu'à la mer. Et pour lui, c'était quelque chose de magique. Et donc, il s'est mis à cette idée de faire construire et de construire lui-même son bateau. Seulement, chirurgien à l'époque, c'était un métier qui rémunérait très très mal. En général, il fallait avoir un deuxième métier d'ailleurs. Lui, à un moment donné, était vigneron aussi. Il y a beaucoup de vignes sur Nancy.
Oui, il y a beaucoup de vignes sur Nancy, bien sûr. Oui.
Et en fait, petit à petit, sur une vingtaine d'années, il va finir par construire son bateau qu'il appelle la Nina. Et moi, je ne vous dis pas la fin.
Non, on ne dit pas.
Est-ce qu'il part, est-ce qu'il ne part pas?
Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça fait vivre ce coin de Nancy qu'on n'imagine pas qu'aujourd'hui c'est un peu à l'écart, enfin bon, mais c'était véritablement
à l'époque il y avait peu de maisons, vous aviez vous aviez une espèce de bâtiment qui supportait une grue pour décharger les bateaux, et vous aviez des baraques au départ en bois et après en dur qui étaient là pour à la fois les ouvriers puis pour quelques marchands pour mais c'était un port qui avait une activité un peu excentrique par rapport à Nancy.
C'est toute l'atmosphère, on se balade quoi, dans Nancy, on se promène, c'est une véritable découverte du Nancy de l'époque. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette heure passée ensemble, et moi je le regrette parce que j'aurais bien continué encore longtemps. dis-nous juste quelques... le premier, là, le début d'une trachéotomie, c'est ça ?
Il y a effectivement une trachéotomie qui est décrite, une trachéotomie très particulière, puisque c'est un des personnages principaux qui a un problème qui sera dévoilé un peu après.
Rosa était allongée sur le sol, inanimée. Son visage était devenu cireux et ses lèvres étaient pincées. Nicolas se précipita et détecta un pouls très faible au poignet. Pas de respiration. Il la bascula sur le côté, sortit son bistouri qu'il déplia et entreprit de déchirer sa robe, puis les cordons de son corset. Il retourna Rosa, la dénuda jusqu'au bassin et posa sa joue contre son nez. Il lui sembla détecter un léger souffle. Ses vêtements avaient comprimé sa respiration, mais ce n'était pas l'unique cause de son malaise. C'était jument de continuer de ne pas recevoir assez d'oxygène. Monsieur de Saint-Simon entra et le vit penché sur le corps à demi nu de Rosa. Il leva les yeux au ciel et haussa les épaules avant de sortir. Il récupérerait son encrier plus tard. Décidément, la Nautilus a parfois des penchants fort étranges, dont songea-t-il, en se promettant de passer cet incident sous silence, afin de ne pas gâcher la journée. Nicolas ne le vit même pas. Il posa sa main sur la gorge de la jeune femme et crut détecter un gonflement de la trachée. Mu par son expérience et sans réfléchir, il introduisit son scalpel dans le cartilage et y pratiqua un petit trou. Rosa eut une profonde inspiration et l'air siffla en passant par l'ouverture. Elle respirait enfin. Il défit les bandages de ses mains et les posa autour de la plaie avant d'appeler à l'aide.
Ah, c'est extraordinaire, cette description de cette première, c'est une trachéotomie. C'était pas l'habitude à l'époque, je pense.
Oh, il connaissait déjà cette action. Il connaissait. Mais ça se passait en fait à Versailles, un jour particulier,
bien sûr,
parce que c'était un jour de mariage princier.
Oui. Éric Marchal, je vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité, je suis vraiment très content.
Nous aussi, c'était un moment de pur bonheur. Le soleil sous la soie, un titre magnifique. On explique dans le roman pourquoi ce titre qui est très joli, qui est poétique. Le soleil sous la soie, Éric Marchal aux éditions N Carrière, à ne manquer sous aucun prétexte. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon retour à Vittel, Éric.
Merci
Christine, au revoir. Merci. Thank you.